meine Damen und Herren, Marcel Lenaf begrüßen zu dürfen. Bonsoir, Marcel Lenaf. Sie sind Philosoph und Ethnologe und seit 1988 Professor an der Universität von Kalifornien, San Diego. Sie lehrten an der Universität Kopenhagen, am Collège International de Philosophie in Paris, an der Johns Hopkins University und der Universität Kyoto. Ihre Forschungsschwerpunkte sind politische Philosophie und die Anthropologie politischer Institutionen und symbolischer Praktiken. Ihr wundervolles Buch »Der Preis der Wahrheit, Gabe, Geld und Philosophie« wurde 2002 mit dem Grand Prix de Philosophie der Académie Française ausgezeichnet. 2012 erschien »Le Don des Philosophes, Repenser la Réciprocité«. Ihre disziplinenübergreifenden Gedanken zu Schuld und Schulden stellen Fragen bezüglich Gegenseitigkeit und Wiedergutmachung, Gleichgewichten und Ordnungen. Sie sehen im Verständnis von Schuld und Schulden zentrale Ausprägungen von Kultur. Sie stellen kosmische, symbolische und finanzielle Schulden in Beziehung und loten ihre Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen ihnen aus. Und sie gehen so weit zu fragen, verbirgt sich hinter menschlichen Schulden und Schuld eine kosmische Schuld? Gibt es eine Lebensschuld? Marcel Lenaf, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag.
Dankeschön. Guten Abend. That's all I will say in German. Je suis très content. Je pense que c'est traduit. Vous avez les écouteurs. Je suis très content de revenir à Berlin pour la troisième fois en deux ans. Je remercie les organisateurs, Thomas Macron et Irini Athanasakis, pour cette invitation. Je remercie aussi la traductrice, Astrid Guise, et tous ceux qui, ces jours-ci, nous ont aidés à participer à ce colloque, en nous transportant, en nous conseillant. Je voulais, c'est en ce sens-là, exprimer ma dette. J'ai fait ce soir quelque chose que je ne fais pas souvent, c'est-à-dire un PowerPoint. J'ai compris depuis quelque temps que ça aide quand même beaucoup à suivre les propos de la personne qui fait un exposé. Mon exposé comporte un sous-titre que je préfère enlever, parce que ça représente un travail plutôt futur. Ce que je vais dire aujourd'hui sera plutôt la préface à cette recherche qu'implique le sous-titre que vous avez vu dans le programme. Donc je maintiendrai aujourd'hui à ce titre, « Dette cosmique, dette symbolique, dette financière ». En quelle mesure toute dette, d'une certaine manière, ou d'une manière précise, implique non seulement un aspect symbolique, mais implique un sens de la totalité, une représentation du monde, une globalité. Et cela s'est transformé d'une manière remarquable, non seulement d'une civilisation à l'autre, d'une culture à l'autre, mais dans l'histoire de notre propre culture en Occident. Et c'est un peu cela que je voudrais essayer de définir ce soir. Alors, la question de ce colloque, c'est la dette, les liens, les obligations. Ma question est donc, la dette peut-elle lier les hommes? Oui, probablement, car être endetté, c'est être dépendant. Mais est-ce souhaitable? On peut en douter, donc on objectera avec raison que les choses peuvent varier selon le genre de dette. Prenons celle qui nous paraît la plus familière, la dette d'argent. Le débiteur semble y tenir le rôle du dominé, à lui, à elle, l'angoisse de régler son dû tôt ou tard, et quelquefois dans des conditions difficiles, voire désespérantes. Être endetté financièrement, c'est être exposé à des sanctions juridiques parfois lourdes. Mais le créancier est-il mieux loti que le débiteur? Il, elle, peut éprouver l'inquiétude d'avoir risqué ses fonds à perte, de ne jamais recouvrer son bien. Cela peut prendre des proportions colossales dans les dettes institutionnelles, celles des entreprises comme celles des États. Et c'est bien ce que nous éprouvons en ce moment dans la crise que nous traversons. Mais outre ces dettes financières, chiffrables, il existe, comme nous le savons tous, des dettes proprement symboliques, plus complexes, comme celles que peut engendrer un service reçu, un cadeau offert, un compliment excessif, une promesse à tenir, ou encore une faute à expier, une offense à effacer. Nul doute qu'il ne s'agisse là d'un lien. Il peut rester ambigu, mais il est incontestable. Il reste que, entre la dette financière et la dette symbolique, la différence nous paraît d'emblée évidente. L'une et l'autre se situent dans des ordres de réalité différents. L'une concerne des quantités mesurables, l'autre des valeurs, des statuts et des affects. Le lien engendré n'est pas le même. Il est arrivé cependant qu'on puisse penser ou prétendre le contraire, que les deux se confondent. Prenons pour commencer le célèbre éloge des dettes qui apparaît dans le tiers livre de Rabelais est prononcé par le personnage de Panurge. Rabelais a créé des personnages étonnants qui sont des géants, comme vous le savez, Gargantua et son fils Pantagruel. Celui-ci, devenu roi, décide d'encourager un jeune seigneur, pauvre mais très malin, nommé Panurge, en lui offrant un château, des terres et une immense fortune. Panurge, sous prétexte de chercher une épouse, organise des fêtes somptueuses, libertines et finalement ruineuses. Couvert de dettes, il retourne voir Pantagruel pour lui demander de renouveler ses fonds. Pantagruel hésite à le faire et le réprimande pour sa conduite insouciante et d'abord pour avoir inconsidérément contracté tant de dettes. Panurge ne se laisse pas démonter par ses reproches et avec beaucoup d'habileté dialectique se lance dans un discours surprenant pour prouver que les dettes d'argent sont la source d'un lien universel entre les humains sur le modèle même du lien qui unit les éléments de l'univers. Les dettes, dit-il, sont comme une union des cieux et de la terre. C'est même un moyen unique de conserver l'espèce humaine. Sans dettes réciproques, les astres cesseraient de se rapporter les uns aux autres, de respecter leurs cours, leurs emboîtements, la lune cesserait de s'entendre avec le soleil, les planètes échapperaient à leurs orbites. Pourquoi ? Parce qu'affirme Panurge, l'un ne se réputera plus obligé de l'autre. Ensuite, à une autre échelle, ce serait notre corps lui-même qui perdrait son unité, son harmonie. On assisterait à une guerre des organes, privés de leur obligation de dépendance mutuelle. On peut imaginer que Panurge, au lieu de présenter ses relations comme des rapports de dette, aurait pu le faire comme des rapports d'amitié ou de confiance. Mais le choix que lui prête Rabelais a une bonne raison. Tandis que les rapports positifs de don sont des invitations à s'unir, les dettes, beaucoup plus efficacement, sont des obligations de rester liées. La dette oblige, telle est sa force, il nous faudra la comprendre. Cette métaphore de l'endettement réciproque des éléments du monde semble la prolongation à la Renaissance, sur un mode parodique chez Rabelais, d'une représentation qui, depuis la haute antiquité, a traversé tout le Moyen-Âge. Elle est liée à une cosmologie où domine le rapport d'analogie entre le microcosme et le macrocosme. Un des témoignages les plus connus que nous ayons dans la pensée présocratique est le fameux fragment 9 d'Anaximandre, qui énonce, on a déjà cité ce texte tout au début de ce colloque, ce dont procède la génération pour les êtres et aussi ce vers quoi ils retournent sous l'effet de la corruption selon la nécessité, car ils se rendent mutuellement justice et acquittent leurs dettes selon l'ordre du temps. Fin de citation. Dans cette cosmologie, l'univers tout entier est conçu comme un organisme vivant dont les éléments sont soumis à la disparition et doivent accepter leur sort en cédant leur place aux éléments nouveaux qui naissent, car telle est la loi du temps. Il y a un cycle éternel de naissance, de croissance et de disparition. Or, il est intéressant que ce mouvement soit énoncé en termes de justice, de dette, de réparation. Avoir une place dans le cosmos, c'est être en dette, parce qu'on l'a reçue temporairement et qu'il faudra la céder. C'est une place seulement prêtée par l'ordre des choses, dont le temps est le maître absolu. Il règle le mouvement d'apparaître et de disparaître. C'est un temps de l'éternel retour. Ici, chez Anaximandre et ses contemporains, l'analogie entre l'ordre cosmique de la succession des êtres et l'ordre humain de la rétribution des actions n'est pas, comme chez Rabelais, une analogie ludique. Elle traduit une profonde croyance de la pensée présocratique. J'y reviendrai plus tard. À ce point, il nous faut nous demander en quoi ce genre de représentation anthropomorphique nous concerne aujourd'hui. J'ai mentionné deux types de dettes qui nous sont familières, les dettes symboliques, qui impliquent des sentiments, des statuts, des formes de civilité et dont les obligations sont morales et sociales, et les dettes financières, privées ou non, qui sont quantitatives et inséparables de contraintes juridiques précises pouvant entraîner des sanctions graves en cas de refus ou d'incapacité de restitution. Aucun de ces deux types de dettes, pourtant, n'engage à nos yeux la totalité de l'univers. Il ne peut être appliqué aujourd'hui, même métaphoriquement, aux éléments du monde, qu'ils soient immenses ou minuscules. Nos exigences de rationalité excluent désormais ce genre d'extrapolation métaphysique ou poétique. À ce sujet, aucun doute n'est de mise. Mais peut-être ne devrait-on pas évacuer trop vite la dimension cosmique de ces penseurs anciens et des représentations comparables dans toutes sortes de sociétés traditionnelles. Car si nous ne devons plus mêler le cosmos à nos dettes humaines, en revanche, celles-ci sont peut-être en train de prendre, sous le nom de dette globale, une dimension cosmique. En fait, ce serait le chemin inverse, mais non symétrique. En d'autres termes, en raison même du processus de globalisation auquel nous assistons, il se pourrait que les activités des organismes financiers, par leur mise en réseau planétaire, leur taille gigantesque, leur interdépendance, positive dans les profits, mais cataclysmique dans les effondrements boursiers, aient des effets évidents au niveau même de la planète, en termes d'urbanisation, de démographie, de pollution. Il se pourrait qu'il n'y ait alors rien de métaphorique à affirmer que notre humanité, dans sa totalité, soit en train d'accumuler une dette symbolique colossale envers le monde non humain. Que la masse de nos dettes financières, sans cesse reportées, ait changé fondamentalement notre rapport au temps. Disons les choses autrement. Les anciens comprenaient le cosmos en attribuant à ces éléments des rapports de dettes symboliques. Aujourd'hui, ce sont nos dettes financières qui prennent une dimension cosmique, et cette fois, non plus sur un mode métaphorique, mais réel. Le plus important est cependant encore ailleurs. C'est ma thèse, si je puis dire ce soir, à savoir que toute dette, quelle qu'en soit la nature, se configure toujours à l'intérieur d'un paradigme global qui concerne aussi bien la compréhension du monde physique dans sa totalité, donc le cosmos, la représentation du temps, l'idée du corps social, le lien entre les humains, les échanges de biens et les rapports de dons, les stocks et les dépenses, les offenses et les pardons. Telle est la mise en perspective globale que j'aimerais tracer dans le présent exposé, et cela en assumant le risque inévitable d'être trop elliptique sur bien des sujets. Ce risque, je crois qu'il faut le prendre pour nous permettre de situer le caractère spécifique de la crise que nous traversons, pour tenter de la comprendre dans le paradigme global qui est aujourd'hui le nôtre. Quel est-il ? J'y reviendrai. Pour cela, je vais envisager la question de la dette selon trois aspects. Comme relation aux autres, comme rapport au temps et comme rapport au monde. Les deux premiers nous semblent aller de soi. Le troisième est plus énigmatique et pour cela même nous obligera à une réflexion plus exigeante. Donc j'aborde le premier point, la première partie, il y en aura quatre. Donc la dette dans la relation aux autres, dans la relation au temps, dans la relation au monde, et puis ensuite les les trois paradigmes qui, je pense, ont changé notre compréhension globale, du moins dans l'histoire occidentale. Bon, c'est un programme un peu long. Je vais essayer de tenir dans les temps prévus. Alors, premier point, donc première partie, la dette dans la relation aux autres, c'est le genre de dette qui nous semble le plus évidente. L'autre est toujours engagé dans ce genre de relation, quel que soit le type de dette. Une des formes les plus universelles de la relation forte à autrui, nous le savons, c'est la relation de don. Relation supposée généreuse, désintéressée et donc positive. La relation de dette en serait donc l'opposé. En fait, les choses ne sont pas si simples, car il y a des types différents de dons. Et ça, en général, on ne le dit pas. Nous ne prêtons pas assez attention à leurs différences, aux différents types de dons. Il me semble au contraire qu'il est crucial de savoir les distinguer. Je propose habituellement d'en identifier au moins trois types. Celui qui vient d'être évoqué, c'est le don gracieux, inconditionnel, qui n'attend pas de retour, qui donc, en principe, ne crée pas de dette. En tout cas, pas de dette symbolique. Le deuxième type, c'est le don réciproque cérémoniel des sociétés traditionnelles. Il doit être réciproque parce qu'il est en fait un pacte, et pour faire un pacte, il faut être deux. Rendre, c'est maintenir le pacte. Ce n'est pas être en dette. C'est un rapport agonistique. Il existe encore un troisième type de don qui ne fonctionne pas comme les deux premiers. Le don de solidarité, consistant à aider des personnes ou des groupes dans la détresse. Là non plus, le geste ne crée pas de dette, mais un esprit d'entraide. Donc il faut faire attention quand on parle du rapport de dette et de don, de ne pas mettre déjà les différents types de dons dans une même catégorie, on rentre dans des confusions constantes. Et pourtant, nous connaissons peut-être ce proverbe, recevoir un don, c'est vendre sa liberté. Les situations qui viennent d'être évoquées renvoient à des relations supposées égalitaires. Ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, pour le don gracieux, certains peuvent être en situation de pouvoir donner et en abuser au point que l'autre ne puisse pas rendre et donc soit mis en état de dette. De même, dans les rapports de dons réciproques traditionnels, il peut y avoir une manière de donner trop ou de rendre trop qui vise à créer de l'indépendance. Ou enfin, dans le don de solidarité, une manière de fournir de l'entraide qui est condescendance et qui est manque de respect pour la misère de l'autre. En somme, cette deuxième série d'exemples semble contredire les premiers. Je crois qu'il faut dire ceci. Ce n'est pas la relation de don elle-même, quel qu'en soit le type, qui crée de la dette. C'est une égalité déjà en place qui change la nature du don et fait que ce don, qu'il soit gracieux, réciproque ou solidaire, change aussi la nature de la relation. Il existe pourtant une forme de rapport à autrui où la question de la dette est d'emblée évidente. C'est celle de l'offense. Plus gravement encore, lorsqu'il s'agit de l'offense ultime, le meurtre. Il s'agit alors de manière incontestable de la dette symbolique, c'est-à-dire qui concerne le statut ou la raison d'être des agents. Prenons tout d'abord, en raison de leur clarté, des exemples dans les sociétés traditionnelles. Lorsqu'un membre d'un groupe, son chef par exemple, a été insulté par un membre d'un autre groupe, par des paroles, par des attitudes, par des négligences, une compensation aussitôt est attendue, sinon une sanction est nécessaire. Autrement dit, le fautif est en dette. Il a enfreint les codes de respect ou d'honneur et doit réparation. Si celle-ci n'est pas réalisée, alors la personne offensée ou son groupe sera en droit et même en devoir de faire justice ou de se faire justice. Cette exigence est encore plus contraignante et violente lorsqu'il y a eu meurtre. On peut alors parler de dette de vie. Une vie a été perdue, elle doit se payer par une autre vie. C'est la fameuse loi du talion, c'est celle de la vengeance. Mais dans le cas des sociétés traditionnelles, sans autorité centrale de type étatique, il vaudrait mieux, plutôt que de parler de vengeance, de justice vindicatoire, car la procédure de compensation est rituellement codée et aboutit à une conclusion. Ce n'est donc pas la vengeance sans fin dont nous parlons habituellement, qui, elle, est devenue illégitime dans les sociétés à forme étatique, où la justice est arbitrale et assumée par une instance collective. La vengeance moderne est donc différente parce qu'elle est en contradiction avec cette justice arbitrale. Dès que s'affirme ce pouvoir central au-dessus des lignages et des clans, ceux-ci doivent accepter l'arbitrage d'un juge, d'un tribunal, qui seuls alors peuvent décider de la sanction. Et c'est toute l'histoire de l'Orestie, d'Eschyle, et donc, entre autres, la décision qui se prend à la fin des Euménides, quand Athéna, qui représente la cité, fait l'arbitrage entre les deux parties. Mais cette justice arbitrale et collective ou publique ne peut cependant satisfaire la souffrance de la victime. C'est ce qu'Aristote avait très bien compris. Quelque chose est en reste, quelque chose de symbolique n'est pas réglé si l'offenseur n'exprime pas du remords. Cette souffrance continue. On peut dire, dans ce cas, que la dette de vie subsiste. Que dire alors de la dette financière ? Pardon, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Que dire de la dette financière ? Elle est certainement celle qui nous est la plus familière aujourd'hui. Chacun de nous a ou a pu avoir prêté ou emprunté de l'argent. Cela se passe souvent entre proches ou amis. Mais plus généralement, il est devenu banal d'emprunter aux banques pour acheter sa maison, sa voiture, ou pour créer un projet d'entreprise, ou faire un film, par exemple. On est alors dans une dette technique et neutre. En revanche, les prêts d'argent entre proches, ou plus généralement, les prêts personnels, transforment d'emblée une dette financière en dette symbolique. Ils génèrent une dépendance chez le débiteur et une inquiétude chez le créancier. Dette dangereuse pour cela même, dette parfois malsaine, surtout entre amis, il y manque la médiation d'un tiers institutionnel. C'est précisément cette médiation, ce statut de tiers, qu'offre une banque ou un organisme de prêt. En effet, de telles institutions permettent de rationaliser la dette d'argent, c'est-à-dire de lui donner la forme de relation à autrui, la forme qui convient. Cette forme, c'est celle du contrat. Le contrat commercial, en général, permet à tous les niveaux de fournir une mesure chiffrée à l'engagement des partenaires car il définit 1. La nature des biens échangés, 2. Leur quantité exacte, 3. La responsabilité légale des partenaires et 4. La durée de la transaction. Même si des affects positifs accompagnent une transaction, cela n'a aucune incidence sur le contenu du contrat. Le contrat vise à une saine objectivité. C'est aussi sa meilleure garantie contre tout mélange des genres qui conduirait à la corruption, c'est-à-dire donner ce qui doit se vendre et vendre ce qui doit se donner. C'est pourquoi, si la relation de contrat crée un lien, ce lien, par principe, reste rationnel, neutre, non affectif, et donc n'appartient pas à la nature du lien social. Je parle du contrat au sens strict, non du pacte, qui est un engagement partiellement ou totalement symbolique ou impliquant une forte dimension symbolique. Donc je conclue cette première partie. Une dette est dite symbolique lorsqu'elle engage une relation aux autres, portant sur des valeurs, des statuts, des enjeux de vie, des émotions. Elle nous engage toujours personnellement vis-à-vis d'eux. La dette financière vise à l'opposé, et avec raison, à rendre neutre cette relation. Et on comprend pourquoi Freud insistait sur le paiement de la cure. Régler d'une manière neutre sa dette financière avec l'analyste a pour fonction de libérer le patient de toute dette symbolique qu'impliquerait une cure gratuite, laquelle, justement, deviendrait une dette de dépendance et bloquerait le transfert. Alors j'en arrive au deuxième aspect de cette question de la dette, après avoir analysé ce rapport aux autres, la question de la dette et du temps. Un lien solide à autrui est un lien qui dure. Nous le savons par toutes sortes d'expériences. Les sociétés l'ont toujours su aussi dans la gestion de leurs relations. Pour rendre cela clair, reprenons le cas du don dans son opposition à la dette, et cela dans leurs formes diverses que j'ai déjà proposées. Le don gracieux, par exemple, des parents aux enfants, entre partenaires amoureux, entre amis, peut être inattendu, mais il n'est pas arbitraire. Il survient et se renouvelle comme le témoignage d'une affection qui dure. Il a un rythme. De même, le don de solidarité peut être lié à un événement précis, mais il ne peut pas être isolé sans perdre sa raison d'être. Le cas du don cérémoniel traditionnel nous intéresse plus particulièrement à cet égard, car il n'est possible que selon une gestion du temps qui lui est propre. Ainsi, dans les sociétés traditionnelles, quand deux groupes inconnus se rencontrent et choisissent l'alliance, plutôt que le conflit et le combat, cela se fait par des dons dits d'ouverture, opening gift, mais pour que l'alliance tienne, il importe qu'elle soit consacrée par des mariages. L'échange exogamique est même la forme du don réciproque par excellence, comme l'a montré Lévi-Strauss. C'est toute la démonstration des 600 pages des structures élémentaires de la parenté. Un tel échange réciproque est très ritualisé, lié au renouvellement des générations. D'une manière générale, il y a deux temporalités possibles dans ces échanges. Ou bien les groupes concernés sont dispersés et ont peu de chances de relations suivies, c'est le cas des groupes dispersés par exemple en Amazonie, mais aussi des populations nomades, alors prédomine l'échange immédiat. Ainsi, dans l'alliance exogamique, chaque groupe cède une épouse dans un temps court. Mais quand les groupes sont amenés à vivre ensemble sur le long terme, alors est possible l'échange différé ou l'échange généralisé, c'est-à-dire la réciprocité. Si le mot échange, veut dire réciprocité essentiellement chez Mauss aussi et chez Lévi-Strauss. Donc le retour dans ce cas-là pourra attendre parfois une génération ou deux et venir d'un groupe différent de la même société. Donc on ne rend pas forcément à ceux qui nous ont donné. C'est l'ensemble de la société qui est concerné, et c'est là que je propose, mais je ne vais pas le développer ici, un passage de la réciprocité, qui est toujours entre deux termes, à la mutualité, qui inclut un réseau. Donc l'alternance, dans ces cas-là, est plus longue, et elle se joue sur le long terme. Ce rapport au temps, dans les échanges de dons, et donc dans l'alliance exogamique, trouve un parallèle exact dans la justice vindicatoire dont j'ai parlé avant, dans le paragraphe précédent, dans la section précédente. Celle-ci, cette justice vindicatoire, est non seulement très codée dans le choix des acteurs et dans l'ordre des actions à accomplir, mais surtout, elle suit un calendrier très précis. Tout se passe comme si cette temporalité de la justice vindicatoire participait à des rythmes de la vie du monde, et avec raison. Avec l'offense, un équilibre a été rompu, et l'équilibre concerne toujours la vie. Le monde lui-même, le temps de la réparation, doit s'entendre au double sens de faire fonctionner les choses comme on répare un outil et de compenser une perte. Dans la dette, toute forme de dette, le temps est toujours la forme du manque, ce qui ne veut pas dire faute. Mais c'est parce que la dette se définit comme ce qu'il y a à faire, et d'abord comme ce qu'il faut effacer. Toute dette est donc programmatique et engage le futur. Mais la dette financière, pour revenir donc toujours selon le même modèle, qu'en est-il maintenant après la dette symbolique de la dette financière ? Mais la dette financière relève, elle, de la rationalité contractuelle, engage une rigoureuse gestion du temps différente de toute dette symbolique. Parce qu'elle doit se faire en termes d'efficacité mesurable. On dit dette financière, qui dit dette financière dit prêt à intérêt. Ceux que nous connaissons dans la vie ordinaire sont jugés raisonnables. La possibilité est vertueuse, même si la réalité peut être parfois un échec. Erreur de gestion de l'emprunteur, effondrement du marché, manipulation. En revanche, pour l'Antiquité et le Moyen-Âge, c'était l'idée même de taux d'intérêt qui était suspecte. C'est ce que dénonce exactement Aristote dans son analyse de la mauvaise crématistique, c'est-à-dire de l'art de faire des profits. L'intérêt, dit-il, revient à demander au temps d'assurer une production alors que le temps n'est pas un agent vivant, mais seulement la condition de notre existence finie ou sublunaire. Il n'est que la mesure du mouvement, celui des planètes. le profit lui confère légitimement autant une fonction propre aux êtres humains. Le profit déséquilibre les relations entre citoyens et menace la cité. Plus tard, les pères de l'Église et les théologiens du Moyen-Âge iront plus loin. Tout profit est usure. L'usurier commet une des fautes les plus graves qui soient, puisqu'il s'approprie le temps qui n'appartient qu'à Dieu. Il est littéralement un voleur de temps. Il y a un très beau livre de l'historien Jacques Le Goff sur ce sujet qui s'appelle « La bourse et la vie ». Ou « Et la vie ». Donc j'en arrive à la troisième partie, je crois être dans les temps, le rapport de la dette et du monde. Que la dette, qu'elle soit symbolique ou financière, implique un rapport aux autres et un rapport au temps, nous devons, je pense maintenant, l'avoir suffisamment, ou l'admettre clairement. Mais que veut dire rigoureusement qu'elle implique un rapport au monde ? Cela nous paraît relever de métaphores anciennes, devenues obsolètes pour notre vision scientifique. Pourtant, il se pourrait bien qu'aujourd'hui, comme il y a des milliers d'années, toute dette, symbolique ou financière, engage une représentation de l'équilibre du monde. Reprenons ici encore une fois l'opposition don et dette. Nous sommes partis du texte parodique de Rabelais sur les bienfaits d'une dette cosmique entre les éléments de l'univers. Plus sérieusement, 20 siècles auparavant, Anaximandre et ses contemporains comprenaient ces relations entre les éléments comme une dette à régler entre eux dans la justice selon l'ordre du temps. Mais avons-nous une vision similaire concernant les rapports de dons ? En vérité, ici peut intervenir une question de vocabulaire, car la solidarité des éléments cosmiques pourrait être tout autant comprise comme une relation de dons réciproques. Les penseurs antiques parlent en effet volontiers de leur amitié entre ces éléments, de leur philia, de leur attirance réciproque, de leur empressement à se reconnaître. Bon, nous sommes toujours dans la métaphore. Cette pensée est au cœur de la vision du don rituel des sociétés traditionnelles. En témoigne ce commentaire d'un anthropologue américain au sujet des échanges de cadeaux chez les Quakliotes de la côte nord-ouest de l'Amérique. Je cite, « L'obligation de réciprocité dans l'échange est une conception cosmique qui présuppose une circulation éternelle des espèces et des êtres. » Les obligations de donner et de rendre sont des obligations de participer à cette circulation vitale. Les chefs Quakliutes sont partie prenante d'échanges en tant qu'ils sont, eux, ces chefs, des incarnations des ancêtres et des êtres surnaturels. Pour eux, donc, le système total des échanges englobe un univers peuplé d'hommes, d'esprits ancestraux, d'êtres surnaturels et à travers les biens mis en circulation, un univers de formes de vie animale et végétale. Fin de citation. Cette vision d'une circulation cosmique des échanges, donc quand les humains échangent, c'est tout l'univers qui est impliqué, c'est tous les êtres qui circulent. Cette vision, donc, on voit qu'elle est commune aux penseurs de l'Antiquité, et donc d'une certaine manière, une bonne manière de lire les penseurs de l'Antiquité, et les présocratiques notamment, c'est de faire de la bonne anthropologie. Ce n'est pas toujours ce que font les commentateurs philosophiques. Ni les philologues. Mais ça se fait de plus en plus et ça donne de très beaux résultats. Donc cette vision d'une circulation cosmique doit être prise au sérieux. Elle échappe le plus souvent aux ethnographes fascinés d'abord par les rapports sociaux. De ce point de vue, il y aurait lieu de reprendre tout le dossier du don rituel et de sa cosmologie. En revanche, le caractère cosmique de la dette semble mieux documenté dans le cas... dans le cas de la dette symbolique. L'Inde védique, de ce point de vue-là, nous offre un exemple fascinant et bien documenté. Selon les Brahmanas, tout être humain naît avec une dette et cette dette est triple. Dette d'étude envers les textes sacrés, dette de sacrifice envers les divinités, dette de procréation envers les ancêtres. Est-ce que je suis toujours... La vie revient à se libérer de cette dette en accomplissant ces trois tâches et en devenant ainsi deux fois né. Pour ça, évidemment, les brahmanes qui ont écrit ces textes sont les mieux placés. Deux remarques s'imposent ici. Et tout d'abord, comme le le dit un grand indianiste français, dans « Cuire le monde », un très beau livre sur justement la dette, le sacrifice védique, le mot « dette » en sanskrit, « rna », n'a pas d'étymologie connue. Ce mot explique tout, dit Malamou, et n'est expliqué par rien. Cette dette constitutive n'a rien à voir avec l'idée de faute originelle de type chrétien. Celle-ci est un événement qui survient comme une rupture avec la divinité. Elle appelle une rédemption que seule la divinité peut assurer. De ce point de vue-là, il y a un texte extraordinaire de saint Anselme de Canterbury, qui s'appelle Cur Homo Deus, pourquoi l'homme s'est fait Dieu, qui fait une analyse étonnante des compensations entre le fini et l'infini, qui permet à seulement l'incarnation de Dieu chez les hommes et l'opération de rédemption, de rétablir ce rapport entre le fini et l'infini. La dette est l'état pour la pensée védique, où aucun dieu n'a été offensé. La dette est l'état original du monde, parce que le monde naît du sacrifice, par la cuisson du premier homme, Prajapati, fait de briques qui sont le monde. Les hommes, à leur tour, par le sacrifice, nourrissent les dieux pour que le monde continue de se construire. La dette dit à la fois l'incomplétude du monde et celle de l'être humain. Parce que cette dette n'est pas liée à une faute, elle n'appelle pas de rédemption, mais elle désigne une tâche à accomplir. Donc elle est aussi, tout en étant cosmique, essentiellement liée au temps. Elle est un programme, si on peut dire. Elle dure autant que dure la vie, et en définitive, c'est Yama, le dieu de la mort, qui dans la mort des créatures reçoit son dû. Il serait possible ici, si le temps le permettait, de comparer diverses cosmologies liées au sacrifice, comme celle, par exemple, de l'Afrique bantoue ou dans d'autres régions du monde. Dans tous les cas, les rapports entre la dette du monde, les rituels de compensation, la fonction du sacrifice, la constitution de l'ordre social sont d'une cohérence remarquable. Mais ce serait un autre projet de débat. En tout cas, nous pouvons saisir à quel point les textes de Rabelais et d'Anaximandre s'inscrivent dans un ensemble de cosmologies relevant de cultures variées qu'on trouve un peu partout sur notre planète, où l'idée de dette, en dépit de perspectives très différentes, est centrale, mais le plus souvent sans cette connotation de culpabilité si particulière au monothéisme issu du Moyen-Orient. Donc il faut faire très attention quand on dit la dette et culpabilité, pas forcément. Passer un an au Japon, et discuter de cela très souvent avec des collègues japonais, sont très étonnés du sens extraordinaire qui est le nôtre du point de vue de la culpabilité. Ça serait un autre débat. Dans tous les cas, le rôle du sacrifice est de rendre aux divinités un pouvoir sur la vie qui leur a été dérobé, car précisément le sacrifice, partout où il était observé, consiste dans l'offrande et l'immolation d'animaux domestiques ou de plantes cultivées. C'est ce que j'ai développé dans le chapitre sur le sacrifice de mon livre « Le prix de la vérité ». Il reste maintenant à se demander si la dette financière, pour nous si rationnelle, si objective, si familière aussi, a su prendre également un caractère cosmique. On pourrait répondre que, hormis des métaphores, tel n'est pas le cas. On peut comprendre pourquoi. L'économie comme production de biens utiles à la vie n'a jamais occupé une place centrale dans les sociétés traditionnelles. Elle reste encastrée, embedded, comme dit Karl Polanyi, dans des activités jugées plus importantes et plus significatives pour la communauté. Elle est au service de ces activités qui relèvent du fait social total, comme le coularing des îles Tobrian, décrit par Malinowski, ou le potlatch de la côte nord-ouest des États-Unis, ou toutes sortes d'autres formes d'échanges qui occupent l'essentiel de l'activité d'une société traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'économie dans ces sociétés, mais cette économie est au service de quelque chose de plus important que l'économie elle-même. Dans les anciennes civilisations, l'économie est certainement essentielle comme puissance, mais elle n'est pas la puissance. Et or, c'est cette situation qui a changé du tout au tout avec notre époque. Aristote concevait l'économie comme une activité privée. Elle est devenue aujourd'hui ce qui envahit de toutes parts la vie publique et la détermine. Mais plus encore, C'est la puissance financière qui pilote le reste de cette puissance, non plutôt, et cette puissance est tout entière centrée sur la spéculation boursière. Du coup, on assiste à la constitution de stocks de dettes qui prennent une dimension de globalité comparable à un fait cosmique. Comment en sommes-nous arrivés là ? Il faut retracer brièvement les étapes de cette étonnante mutation, du moins en ce qui concerne l'Occident. Est-ce que ce que je vais faire maintenant, qu'en est-il de notre histoire de ce point de vue ? Donc la dette et l'Occident, trois paradigmes. Trois paradigmes historiques. Comme nous l'avons compris, je l'espère, par les analyses précédentes, le rapport de dette n'est jamais simplement et seulement un problème de relation entre personnes. Que dès lors qu'il y a quelque chose à rendre, se pose une question d'équilibre global, de restauration d'un ordre. Pourtant, cet équilibre lui-même n'a pas toujours été conçu de la même manière. Sa représentation globale a même subi des transformations considérables qui constituent de vastes paradigmes ontologiques. Je me propose maintenant de dessiner les grands traits de ces paradigmes pour ce qui concerne la pensée occidentale, et sans préjuger du fait que cette description, même si elle peut être utile pour comprendre d'autres civilisations, ne saurait s'appliquer directement à elles. Il s'agit de transformations dans le temps, donc d'une généalogie historique. Je vais donc tenter, brièvement, de mettre en évidence ces trois paradigmes. Pour chacun d'entre eux, je vais évoquer les lignes principales, en indiquer le rapport à la vision économique qui y est liée. Donc, c'est l'idée que dans chaque formule, dans chaque modèle d'équilibre, ou on verra peut-être de déséquilibre, l'économie se situe non pas comme un champ séparé, mais comme quelque chose qui participe du paradigme, qui le renforce ou le conteste, mais qui ne peut pas en être séparé, si on veut comprendre cette évolution. Donc, premier paradigme, le monde antique et médiéval, le cosmos comme équilibre, clôture et circularité. Toutes les conceptions physiques et sociales du monde antique sont dominées par l'idée d'équilibre. Cela s'affirme dans les théories présocratiques concernant l'univers, et quel que soit leur contenu ou leur principe explicatif, les planètes ont un cours régulier et éternel, les éléments de notre monde, terre, air, eau, feu, malgré leur apparence instable, sont liés selon des proportions, leur action se compense et s'harmonise, tout reste dans le vaste enclos du cosmos. Rien n'y entre et rien n'en sort. La vie et la mort ne sont que des péripéties dans un mouvement de retour incessant qui reproduit les mêmes êtres. La perte locale, aux yeux trop limités de l'expérience humaine, se compense dans un bilan global qui reste stable. Il y a une échelle des êtres, chacun y a sa place et se doit de la garder. Tout déplacement indu, toute rupture déraisonnable est une hybris et crée un déséquilibre, une perte, donc une obligation de compensation. C'est cela qui est compris comme dette. Je pourrais ici citer énormément de textes, j'en ai collecté un certain nombre. J'en retiens un peu curieux, parce que du deuxième siècle de notre ère, chez un auteur que nous ne connaissons que parce qu'il est cité par un autre, qui le critique, à savoir Celsius, et qui dit ceci au détour d'une phrase, parce que c'est l'évidence même de tout le monde, « Il n'y a jamais eu, je cite, il n'y aura jamais dans le monde plus ou moins de mots qu'il n'en comporte aujourd'hui. La nature de l'univers est une et toujours identique à elle-même, et la somme des mots reste constante. » Fin de citation. Nous sommes dans une ontologie gouvernée par l'analogia, qui signifie à la fois similitude et proportion. Monde divin et monde humain se répondent, toute proportion gardée. C'est pourquoi la société politique elle-même doit se comprendre comme la mise en place d'un ordre fondé sur la proportion. Le modèle d'équilibre est aussi ce qui prévaut dans la conception de la justice de la cité. Et au niveau individuel, la vie heureuse, selon Aristote, est une médiété, c'est-à-dire un équilibre entre le trop et le pas assez. Elle vise donc à agir pour que les choses soient ou reviennent à leur place. Cette vie bonne et juste, c'est la vie conforme à la finalité des êtres, donc à l'ordre des choses. Le bilan global reste inchangé. Il se renouvelle dans l'identique. Il n'y a pas de place pour l'irréversible. Le paradigme est cohérent. Il y a traduction réciproque dans tous les domaines. Dans ce monde clos et homéostatique, on ne saurait s'étonner que l'économie soit elle-même conçue comme un ordre à conserver. Le mot économie dit tout. Il s'agit de la production des biens dans l'ordre de la maisonnée. Premier souci, équilibrer les comptes, éviter les dettes ou les rembourser au plus vite. Non faire des profits pour investir sur le long terme, mais pour garantir la stabilité du domaine familial ou de la cité. C'est ce que montre en tout cas Moses Finlay dans son livre « Ancient Economy ». C'est une vision que prolonge tout le Moyen-Âge occidental. Et cela malgré tout un ensemble de pratiques qui clairement sortent du modèle et déjà en sapent les bases. Transactions internationales pour des profits à long terme, réinvestissement, accumulation des capitaux, prise de risque sur les transactions commerciales, forme nouvelle du crédit, c'est ce que décrit Fernand Braudel. Pourtant, l'éthique officielle reste liée au soupçon sur le prêt à intérêt, la condamnation de l'usure. C'est ce verrou que fera sauter la réforme, tout le monde le sait. On est bien à partir du XIIe siècle dans le capitalisme naissant, mais rien dans les conceptions disponibles ne permet d'en détecter la dynamique, encore moins de la formuler et donc de la comprendre. Le modèle global reste celui de l'équilibre. Tout écart à l'équilibre est suspect ou même fautif. D'où le soupçon sur la banque et les usuriers voleurs de temps. La dette financière est partout, mais elle reste illégitime. J'en viens au deuxième paradigme. Une découpe du temps qui est connue, c'est celui qui va de la Renaissance aux Lumières, le monde comme infini, multicentré et calculable. C'est cette exigence d'équilibre, qui résiste et que l'on retrouve entière dans la cosmologie pourtant très nouvelle qui se met en place avec Copernic et Galilée. C'est un peu paradoxal de le constater. Avec Galilée, une certitude nouvelle apparaît. L'univers n'a pas de limite connue. Il y a d'autres systèmes que le système solaire. Bref, l'univers doit être supposé infini. Pascal le reconnaît et le résume dans une phrase célèbre, disant de cet univers, la circonférence est partout et le centre nulle part. Et il ajoute, vous le savez, le silence des espaces infinis m'effraie. Nous voici en effet dans un monde décentré ou multicentré, infini. Pour l'avoir affirmé, Giordano Bruno sera brûlé. L'équilibre ancien devrait donc être mis en cause. Or, il n'en est rien. Donc le paradigme là souffre, en quelque sorte. Il n'est pas homogène. L'idée antique de l'ordre n'est pas abandonnée. Elle est reformulée de manière surprenante. Car il faut un centre, il faut un point fixe, lequel ne peut plus être dans le cosmos. Descartes offre la réponse que l'époque attendait. Ce point fixe n'est plus dans le monde, c'est le sujet pensant le monde. C'est le cogito qui, en surmontant le doute sur toute réalité, devient la seule certitude totalement solide dans le monde. Et surtout, c'est depuis le cogito qu'est démontrée l'existence de Dieu et qu'ainsi est rétabli l'ordre entier de l'univers, sa cohérence, sa rationalité, sa finalité. Je ne vous apprends rien de nouveau. Le cogito consacre et fonde la pensée de la perspective néo-quattrocento et inaugure, si on peut dire, la subjectivité baroque. Bilan des trois siècles de l'humanisme rationnel, le monde s'est sécularisé, mais continue d'être pensé comme une totalité stable. Quand Laplace, à la fin du XVIIIe siècle, synthétise les résultats de la physique classique, c'est pour présenter une exposition du système du monde, 1798. Nous avons ici un spécialiste, Éric Briand, cet auteur. Donc un système qui reste compris comme éternel. Tout a changé. Car Laplace commence à comprendre l'obsolescence du système solaire, et pourtant, rien n'a changé. le mouvement reste encore conçu comme interne au système. Les transformations sont en fin de compte des conversions d'état, des équivalences. Ce n'est pourtant plus le même équilibre, ce n'est même plus le même rapport aux autres, socialement et politiquement, et aux choses, techniquement et économiquement. Car l'économie commence à être conçue comme une science, le système de production, d'échange, d'investissement, de prêts à intérêt, de crédit, de rente, tout cela a ses lois comme la nature a les siennes. Là, l'économie devient une science et donc une physique, si on peut dire. L'économie nouvelle est un art d'investir et de conjecturer. Elle ne craint ni la dette ni le risque, et nous avons l'œuvre d'Adam Smith. Il n'y a plus de dette du monde. En revanche, la dette financière est devenue un outil de tout premier ordre dans le monde. Elle se joue d'abord dans le grand mouvement des investissements capitalistes, dans les spéculations boursières qui commencent à prospérer. Il y a une dette créatrice de richesses qui rejette explicitement les vieilles exclusions concernant l'usure. Le monde de la production dépend des banques et de leurs prêts à court ou long terme. Le banquier n'est plus un voleur de temps, mais son générateur, son maître. La dette financière n'est plus un déséquilibre à corriger, mais un pari rationnel sur le temps qui vient. Pourtant, au niveau des théories physiques, on reste dans la vision globale d'un ordre mécanique, tant du point de vue statique que dynamique. Ce deuxième paradigme est donc bancal, habité par des contradictions. Pour comprendre ce qui se passe, un concept pourtant déjà fréquent, mais sans statut paradigmatique, est nécessaire, c'est celui de chaleur. Donc j'en arrive au troisième paradigme. J'ai oublié le second. Je vous laisse lire, ça résumera. J'en arrive au troisième. Énergie, déperdition et réversibilité, ou le cosmos selon la thermodynamique. Et donc, comment situer la dette dans ce nouveau paradigme? Cette stabilité du cosmos classique peu à peu s'effondre avec l'émergence de la thermodynamique, il faudrait plutôt dire avec l'entrée en scène de la machine à vapeur. Dans le cas présent, c'est en quelque sorte une invention technique, ou plutôt sa réinvention, entraînant une révolution dans le rapport à l'énergie qui sollicite la théorie et transforme la cosmologie de fond en comble. En somme, une technique change la vision du monde qui change et accélère la technique. Cela, on va le voir rapidement, transforme du même coup la représentation des rapports entre production des biens, finances et gestion du temps. Le paradigme précédent modifiait l'état des choses. Le nouveau le révolutionne. On entre dans un autre monde. On change de temporalité. Le monde du temps fini commence, disait Valéry. Il faudrait plutôt dire le temps du monde fini commence. Mais il faudrait plutôt dire le temps du monde qui finit commence. Cela a été vrai depuis toujours. On le sait maintenant de science exacte. Mieux, l'espèce humaine y contribue, du moins en ce qui concerne sa demeure commune, la planète Terre. Le temps de notre galaxie, comme celui de toutes les étoiles, est compté. Le feu du soleil s'éteindra. Mais revenons à la machine à vapeur. Ce qui change fondamentalement, c'est le rapport à l'énergie et surtout à l'idée même d'énergie. Jusqu'ici, l'énergie nécessaire à produire du mouvement appliquée à des machines, qui a spécifié les effets, était ou captée de masse en mouvement, comme l'air ou l'eau, ou d'êtres vivants, comme les animaux ou les êtres humains. Avec la machine à vapeur, l'énergie provient de corps dont elle est libérée en produisant de la chaleur. Elle est donc brûlée et disparaît. Pourtant, la théorie scientifique générale mettra du temps à se formuler. Elle l'est en 1825 par l'ouvrage de Sadi Carnot, qui énonce le principe fondamental de la thermodynamique, inséparable du phénomène de déperdition d'énergie, appelé ensuite second principe, après les travaux de Boltzmann, s'ouvrait ainsi, pour les sciences physiques et pour l'étude du cosmos, une ère nouvelle, à savoir que le monde devait être compris comme un réservoir d'énergie. Bien plus, il fonctionne comme une machine à consommation d'énergie, que comme tout dispositif de ce genre, sa réserve énergétique tend à s'épuiser. Et enfin, pour cette même raison, le temps cosmique doit être compris dans sa totalité comme un temps irréversible. On a donc le schème général, réservoir, consommation, entropie, irréversibilité. On est en somme quasiment, point par point, à l'opposé de la cosmologie antique. Le renversement de paradigme est complet. Or, cette nouvelle cosmologie est désormais au cœur des représentations de la société et de ses activités. Le temps accumule pour nous des expériences, les savoirs, les œuvres, les techniques, mais il est aussi la forme même de la disparition probable de tout ce qui est produit. Ce n'est plus le rythme antique de naissance et de mort, c'est une vaste agonie dans le temps même de la production. Ou plutôt, tout se passe comme si la croissance exponentielle de la production humaine s'opérait à proportion inverse du mouvement de l'entropie cosmique, laquelle, on le sait, aura le dernier mot. C'est dans un tel paradigme qu'il nous faut comprendre la nouvelle figure de la dette. Tout se passe en effet comme si l'économie, depuis les premiers pas du capitalisme, dès le Moyen-Âge, avait consisté dans la mise en place du réservoir nécessaire à la grande machine énergétique de production. Ainsi pourrait, en rigueur, se lire la théorie de l'accumulation primitive du capital. Elle concerne désormais tout aussi bien les sources énergétiques, la force de travail, les réserves financières. Or, ce sont ces dernières qui décident du destin des deux autres. C'est le système bancaire qui est en mesure de s'approprier toutes les formes du réservoir. Or, ce système est d'abord un système de création de richesses par la dette. Cela n'est pas nouveau en soi. Ce qu'il est, c'est la généralisation de cette procédure, sa complexification sur des réseaux immenses de produits financiers qui suspendent la production à un financement dont les résultats sont constamment reportés sur des retours futurs. Nous sommes aussi loin qu'il est possible du modèle antique. Le réquisite d'équilibre qui semblait aller de soi et dont les images irriguaient toutes les activités humaines, ce réquisite n'est même plus évoqué. On en parle encore comme d'un idéal dans le budget des États, presque un formalisme, idéal en fait relatif, car les économistes sérieux savent bien qu'une économie dynamique suppose nécessairement une marge de déficit. Nous sommes jetés en avant dans un déséquilibre que l'on dit dynamique, tel est le moteur de la dette, ou la dette comme moteur. L'économie désormais fait l'histoire et la finance fait l'économie qui fait l'histoire. La finance échange, mais surtout spécule, sur des profits futurs. Son réservoir, c'est la dette elle-même, c'est la réserve de temps futur. Dans cette économie, toutes les activités de finance sont interconnectées et globalisées. La dette, je parle de la dette financière, n'est plus cosmique en termes métaphoriques, elle est effectivement devenue mondiale. Et la question qui se pose alors, est-ce que la dette symbolique, celle dont je parlais au début, celle qui concerne nos rapports aux autres, que ce soit dans les rapports de justice, dans les rapports de respect, dans les rapports d'honneur, dans les relations en général, humaines, est-ce que cette dette symbolique est vouée à disparaître? Comme disparaissent les vieux rituels, comme disparaissent les superstitions. Et je conclus. C'est dans le champ de ce nouveau paradigme qu'il nous faut nous demander ce qu'est devenue cette dette-là. Elle ne s'exprime plus en termes cosmiques figurés. Le monde est désormais l'objet d'un savoir qui ne souffre pas d'approximation. Le savoir doit être rigoureux, précis. Certes, les métaphores gardent leur valeur illustrative, quelquefois heuristique, mais elles n'ont pas leur place dans le calcul. La question est désormais celle d'un nouveau rapport au temps, dans le paradigme anthropique de la thermodynamique. Ce qui nous précède, ce n'est pas une faute, mais une perte énergétique qui n'en finit pas, même si cela est un horizon qui reste hors de notre perception. L'entropie cosmique semble contrecarrée par l'espèce humaine grâce à la puissance exponentielle de sa production de connaissances, d'outils et de biens. Cela génère une croissance démographique non moins exponentielle. Mais au final, plus nous produisons, plus nous nous épuisons. les investissements présupposent de manière de plus en plus globale un pari sur le futur que traduit la somme totale des dettes publiques ou privées. Par exemple, on évalue aujourd'hui les dettes publiques à environ 50 000 milliards de dollars, ce qui représente des dizaines de fois le budget des États-Unis, seuls États-Unis, ce qui est énorme. Nous hypothéquons le futur comme s'il était notre nouvelle éternité. Cette dette globale n'est pas une figure de style. Elle est réelle et configure le temps de notre espèce. Nous sommes emportés dans ce mouvement. Nous savons que la flèche du temps ne revient pas. La dette n'est plus au début. Elle nous attend et nous aspire. Elle est le gouffre du temps anthropique. Elle est la figure de notre destin. Ce n'est plus seulement l'homme endetté à quoi nous assistons. C'est à l'humanité insolvable. Les financiers sont devenus les maîtres pervers du temps. C'est aussi ce que j'ai eu l'occasion de développer dans un texte paru dans Lettres en allemand, dans Lettres internationales, au printemps dernier, Schulden und Menschen. Et j'appelle ces maîtres du temps les dandies de l'Apocalypse. Pourtant, chose étonnante et rassurante peut-être aussi, même emportés dans ce devenir planétaire, réglé par l'économie, par les impératifs de la production et par la dette financière, l'animal humain reste un animal symbolique et même un animal cérémoniel, selon la belle formule de Wittgenstein. Toujours dans nos relations, nous restons capables d'attachement et de rejet, exposés aux sentiments d'honneur et de honte, capables de confiance et de défiance, ayant un sens aigu de la réciprocité et de la justice, pouvant ressentir le remords ou l'exigence du geste désintéressé. Cela se traduit dans nos actions, se traduit dans nos rites et dans nos lois. Autant que nos plus lointains ancêtres, nous exigeons le respect mutuel et reconnaissons le prix de la vie. Cela n'a pas changé. C'est pourquoi nous n'en aurons jamais fini avec la dette symbolique, mais à condition de la comprendre comme une dette sans culpabilité, comme l'exigence positive et agonistique de répondre, comme le geste nécessaire de réciprocité, en quoi elle est le signe que nous restons des êtres humains. Dankeschön.
Merci beaucoup, Marcel Hennaff, vielen Dank. Marcel Hennaff steht Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung. Bitte auf Englisch.
Excuse me, the translator told me that she would relax a little bit. So she asked me to make the debate in English. So she has, there's only one person to translate, so whatever. So we can do it in English if you don't mind, and if you understand my Franglish.
Let's warm the room with other form of Franglish. Okay, so thank you very much. It's a very, very clear and systematic presentation. I'm amazed with it. May I indicate one point in order to ask you how you put it in the three steps, especially in the thermodynamical paradigm. One characteristic of Boltzmann equations is that there is an equivalency between time and space.
Because
is an equivalency, an ergodicity of time and space. And this is the way he treats uncertainty. If you really go to the text, you see that he is using an equation of probability in order...
I mean Carnot?
We, no, in Boltzmann. Ah. In order to be able to translate space and time. So, I make the point like this for the sake of erudition. It's not the final point. My point is, would you consider that there is a special equivalency between time and space in the last paradigm you have identified? Or the relationship between time and space, do they change in one paradigm to the other?
I'm not sure I'm able to address your question. You mean in terms of physics?
No, in terms of the logic of the paradigm. For instance, is time equivalent to space? I would say in the last one, I have the impression that this is the case.
It's because the space is understood itself in terms of energy, and that energy is subject to the movement of entropy. So that will be the indication. The cosmos, if the question of space is should be understood that the cosmos as a totality, the question of space and time are inseparable. So at the same time, the time is a time of the disparition or the consumption of that energy and a change of form. So until everything has become, well, we don't know, but we know that our solar system is half the way of the about 14 billion of year, which is promised to exist, to last. So the only answer I can give as a non-physician, non-specialist, is that the question of energy make the bridge between the cosmos as space and volume and totality and the question of time.
Thank you very much for the lecture. You really took the large brush and repainted the cosmos. I'm amazed that you didn't take another step. Your third order is thermodynamics. So we're talking about the late 19th, early 20th century. And surely from then until today, one could identify a fourth age. And I would suggest, of course, that it's something like a digital revolution. And the digital revolution is an information revolution. And an information revolution relies on symbols. So what would you rather do in a digital age than have symbolic exchanges? So here they are, back again. What do you think?
Yeah, good point. Originally, I had that in my program. And I spent days trimming my text. So, even until a few minutes before coming to on stage, I was erasing some paragraphs too. And originally, the three paradigm were the corresponding to the three type of engine we have now in our history of engines: the vectorial one, or mechanic, thermodynamic, and the informational. That would be another development. So the two first paradigms belongs to the mechanic engine, and then you have the thermodynamic one, and now we are in the informational engine, and with the theory of networks, and the use of symbol, but symbol as functional symbols. So even though, and that's a huge question, even though we are the time of writing, the time of production of sign, or well, I will not enter in the discussion of the difference between sign and symbols, but it's clear that is another age. And the question of the global debt, for instance, should be referred to this network of this global interconnection of the financial procedures. But your point is about this question of the status of the symbolic. I think whatever the network will develop and the new informational age will create as this, let's say, culture, I would have done the same conclusion. But thank you for asking this question, because it's something I had in mind to develop, and would have been here for 2 or 3 hours. But it's not an excuse.
Entropy means the progressive reduction of information, of the reduction of difference. And my question is, if not the first period of the antique period with if not the period of homeostasis balance, if this period is not always in Geltung, yes, gültig ist, because entropy. In each time, there was a counter principle to entropy. We call it neck entropy.
Mm-hmm. Yeah, it's so,
and only the balance between entropy and neck entropy makes the world. The world. The neck entropy. We can produce on this earth. I don't say that we can produce the neck entropy in the infinite universe. I speak only of this earth, which depends of the energy of the sun, and the sun will produce her energy some milliards of years. On this earth, it depends on animals and plants, and human beings are producers of neck entropy. And in this sense, I think that the antique period of balance is our period still.
Well, is a struggle. is well known that the production of knowledge, new tools and techniques, is considered as a resistance against entropy. As you said rightly, this is produced only by human on our planet. So we cannot resist the global movement of entropy of the universe. So the paradox is, the more we produce, the more we consume, and the more we accelerate in some ways this entropy. The movement itself of negentropy, we can call this production or resistance with that term, is participating in some ways. When I said the more we produce, the more we destroy, so is exactly what we experience and today. But it's true that this movement of compensation does exist. And the third engine, in some ways, has this function. It's the same with the brain. The more we get old, the more the neuron lose energy, but have more connection. So, but it doesn't mean that we can survive to this multiplication of connection. I don't want to be metaphysic on that question, but some ways we have to admit that this effort of negentropy is even has a global status on our planet. In the universe, it's just a local resistance. Yeah.
Resistance is a good word.
Is maybe too anthropomorphic, but it's interesting that is nobody conceived that in people when they produce or do produce new knowledge or new technologies have no sense of a resistance, but it can be understood in that way in with more distance of what is the fate of our species. Is a certain view, I admit, but I think it's we have to try to situate a question of debt in this global process of transformation and what is happening to us, even though we deny it. So it's a little bit pessimistic, but realistic, probably.
Okay, Thank you very much, Marcelina.
Thank you to all for your patience. A Saturday night is really heroic of you. Thank you. May I say something about the organizer? They have conceived. I'm the last speaker of the debt to express. They have extraordinarily conceived this event as a design. As an installation, as a work of art, and I think we have to applaud them very warmly.
We have to thank everybody.
That's for you.